RCF.
Je reçois cette semaine dans Témoins un thérapeute spécialiste EFT, comprenez Emotional Freedom Technique, une thérapie dite brève de libération des émotions, nous en reparlerons. Mais c'est surtout un homme animé de la foi en Jésus-Christ, relevé par lui, oserais-je dire, qui est derrière le micro aujourd'hui. Pascal Denis Massé, bonjour.
Bonjour Catherine, bonjour tous les éditeurs.
Et merci beaucoup de vous arrêter dans Témoins aujourd'hui, Pascal. Alors le témoignage, c'est un exercice auquel vous êtes rompu depuis quelques années déjà. Vous avez reçu dans votre cœur cet appel à témoigner, à raconter votre histoire de vie, qui est aussi une forme de résurrection, pourrait-on dire. Alors, par quoi commencer, Pascal ? Ben, peut-être tout simplement par le début, dire que vous êtes au départ un jeune pour qui tout roule, famille aimante, plutôt douée à l'école, prépa, école d'ingénieur, un mariage d'amour, trois enfants. Et puis, cette belle carte postale va se déchirer. Vous trompez votre femme, vous demandez le divorce. Que s'est-il passé, Pascal Denis Massé, pour que le rêve se déchire ?
J'ai été élevé avec une famille très aimante et avec un objectif de vie qui était « Mon fils, tu te marieras, tu seras ingénieur, tu auras des enfants et tu seras directeur ». Et puis effectivement, à 33 ans, j'avais coché toutes les cases. Mais derrière ce cochage de toutes les cases, il y avait un vide immense. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant ? Alors j'avais déjà commencé à déraper avant ces 33 ans. Mais là, je me suis trouvé face à un gouffre. Et plus j'allais au fond de ce gouffre, plus il s'agrandissait. Et je ne voyais pas la fin. Mais j'ai continué à avancer malgré tout dans ce gouffre.
Il n'y a pas eu un événement particulier, une rupture ou quelque chose qui est venu vraiment vous percuter ?
Non, j'étais dans un monde de consommation où on nous disait que... Alors à l'époque, l'iPhone n'existait pas, mais je prends l'exemple de l'iPhone. Fallait avoir le dernier iPhone, fallait avoir ceci, fallait avoir... J'avais tout, mais en fait, j'avais rien. J'avais rien parce que je ne savais pas ce que c'était que le vrai amour. Je ne savais pas ce que c'était qu'aimer vraiment ma femme. La seule chose que je faisais plutôt pas trop mal, en tout cas j'espère, c'est d'aimer mes enfants parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Mais ma vie de couple, très clairement, je l'avais négligée. Ça sert à rien de chercher qui est responsable parce que les torts sont toujours partagés. Mais le résultat était que les discussions de fond que l'on doit avoir de mon point de vue, dans une vie de couple, je ne réussissais pas à les avoir.
Dieu occupait-il une place à ce moment-là dans votre vie avant cette sortie de route conjugale ?
J'étais élevé dans une famille catho qui allait à la messe tous les dimanches. J'avais eu quelques illuminations jeunes, mais petit à petit, je m'étais éloigné de la foi. Et je m'étais d'autant plus éloigné de la foi que cette confession que je faisais quand je trompais mon épouse, je me disais... Oui, je ne vais pas recommencer, mais je recommençais. Alors, ça prenait plusieurs mois, voire plusieurs années avant que je recommence, mais je recommençais. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Et je ne voyais pas que à chaque fois que j'allais me confesser, en fait, même si je ne rechutais pas immédiatement, même si ça prenait du temps, eh bien, c'était un chemin de croissance. Je le voyais plutôt comme... Et donc, un jour, j'ai dit, bon, ça ne sert à rien, j'arrête. Et j'ai rompu ce lien. Et en rompant ce lien, eh ben, ça m'a entraîné à aller de plus en plus dans les excès jusqu'à un moment où je me suis dit « mais tout ça, c'est des conneries ».
Et pourtant, vous aviez quand même ce désir, ce besoin peut-être aussi d'aller vous confesser.
Alors, j'ai gardé ce désir d'aller me confesser longtemps, mais il y a un moment où je me suis dit « mais c'est n'importe quoi ». Comment est-ce que je peux avoir une religion qui, d'une certaine manière, m'encourage, parce que je le voyais comme ça à l'époque, à continuer à être infidèle.
Alors vous êtes DRH à ce moment-là, Pascal, dans un grand groupe. C'est l'occasion d'une formation sur la gestion du stress qui vous donne l'occasion de vous dire « il faut vraiment que je prenne du temps pour moi, du recul ». Et là, il y a comme un point de bascule. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal Denis Massé ?
En fait, c'est très amusant parce que j'ai à la fois cette formation comme Colors a été un vrai révélateur pour moi. J'ai un côté très chaleureux où je suis capable de parler avec quasiment n'importe qui. Mais en même temps, j'ai un côté dans ce mode de fonctionnement qui s'appelle le vert. Donc besoin de me mettre au vert, besoin de m'isoler. Et ça, je l'avais fait entre 18 et 25 ans, date de mon mariage, puisque j'avais pris l'habitude d'aller à l'abbaye de Saint-Vendry. Et à chaque fois que j'y allais, ça me faisait un bien fou. Mmh. J'y avais emmené ma fiancée, elle m'avait dit « je n'aime pas, je n'y retournerai pas ». Et moi, bêtement, au lieu de dire « bah écoute, ça ne te plaît pas, c'est pas grave, mais moi, j'en ai besoin », j'avais rompu avec cette habitude d'aller à Saint-Vendry.
Un lieu ressource un peu.
Un lieu vraiment essentiel pour moi. Mmh. Et donc un jour, alors c'est pas au moment où j'étais DRH, c'est au moment où j'avais créé ma boîte, mais ça n'a pas d'importance. Un jour où avec mon équipe, on fait cette formation sur la gestion du stress, je prends conscience de ce côté vert, de ce côté j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me poser dans ce monde qui va de plus en plus vite. Et donc je vais frapper à la porte de Saint-Vendry et je demande à rencontrer un prêtre, un moine. Et ce prêtre, voilà, je lui lâche tout et dès le début je lui dis voilà, j'ai trompé ma femme, je suis devenu athée.
Vous déballez tout comme ça?
Ah oui, j'ai tout déballé, ça a duré je ne sais pas combien de temps. Et après coup, je l'ai vraiment vécu comme le retour du fils prodigue. Oui. À aucun moment il ne m'a jugé, il m'a encouragé à vider mon sac. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause. Je vous garde pour le déjeuner et on se revoit cet après-midi. Là, il avait un office. J'avais oublié les horaires des deux offices. Et il m'a dit, allez vous promener dans la forêt. Dans Saint-Vendry, on a une chance extraordinaire, nous les hommes. C'est que dans la clôture, il y a cette forêt. Cette forêt qui, voilà, il y a quelque chose de plus grand. Et je suis allé me promener dans cette forêt. Et à un moment, j'ai entendu une voix qui venait du ciel et qui m'a dit « Arrête tes conneries, j'ai un dessin pour toi, c'est trop tôt pour te le dire, fais-moi confiance, tu verras, c'est génial. » Alors quand on entend ça, ben, j'ai pas eu d'autre choix que dire « Ok, banco !» Et je suis revenu avec une banane. Le frère Xavier me dit « Mais vous aviez un sourire, mais dingue !» Et effectivement, j'étais radieux. Alors, j'ai déjeuné. Après le déjeuner, il y avait un autre office. Et puis, j'ai poursuivi notre échange et je lui ai demandé la confession. Et j'ai reçu cette confession, ce sacrement de réconciliation dont je m'étais éloigné depuis tant d'années. Et ça a été un moment extraordinaire. Alors ça a été vraiment cette conversion. Alors c'est amusant parce que je reviens d'un pèlerinage sur les pas de Saint-Paul en Grèce. Et bien évidemment, Saint-Paul, avec sa conversion, ça oui, ne peut que me parler.
Oui. Conversion fulgurante aussi. Vous avez eu votre chemin de Damas à vous.
Voilà, j'ai vécu mon propre chemin de Damas. Alors après, une fois qu'on a fait la conversion, la tête a tourné, mais il faut que tout le reste tourne. Et ça, ça a pris un peu de temps. Mais j'ai eu la chance que le père Xavier accepte de m'accompagner sur ce chemin. Et donc, il m'a aidé progressivement. Et comme nous enregistrons à Rouen, je ne peux que évoquer Arami, puisqu'au bout d'un moment, il m'a dit « je pense que ça serait bien que vous donniez un peu, vous avez beaucoup reçu ». Et oui, effectivement, je l'admets, je suis extrêmement privilégié et j'en suis conscient. Et Arami, c'est quoi? C'est une association rouennaise qui va accompagner les morts isolés. Eh ben, quand on se retrouve devant une tombe où il n'y a que les membres d'Arami pour accompagner un SDF ou une personne qui n'avait plus personne dans sa vie, qui n'avait pas de famille, qui s'était fâché avec sa famille ou qui l'avait perdu, eh ben là, effectivement, personne ne va être là pour vous remercier. Et j'ai appris à donner sans rien attendre en retour. Et ça change tout, en fait, dans la vie. Et paradoxalement, plus on donne et plus on reçoit. J'ai aussi découvert cela à travers ces personnes morte isolée.
La foi se raconte dans Témoins.
un chemin de renaissance, en tout cas de croissance spirituelle, Pascal Denis Massé, qui coïncide aussi de votre côté avec un retour à l'Église, parce que vous avez aussi proposé vos services et un prêtre, je crois, vous a encouragé à faire le parcours Alpha, à le vivre aussi, d'abord pour vous.
Alors ça, c'est une très belle histoire. En fait, j'ai plein de belles histoires dans ma vie, mais un jour, je vais me confesser. Et je vois le prêtre et je lui dis voilà, alors à l'époque, l'église qui était en face de moi à Paris, c'était l'église de la Sainte Trinité.
Parce qu'on ne l'a pas dit, Pascal, mais vous vivez entre...
la province et Paris, tout à fait. J'avais remarqué deux ou trois choses où j'aurais bien été pour effectivement m'investir un peu plus dans ma paroisse. Et trois fois de suite, il me dit « Parcours Alpha, animateur Parcours Alpha ». Et moi, j'avais eu un quêté catastrophique. Je suis né en 65, donc 68, Vatican II. Moi, j'avais le quête image. On nous projetait des diapos et on nous faisait parler sur ces diapos. Autant dire que j'ai rien retenu de mon quêté de l'époque. Je savais même pas, quand j'ai fait ma première communion, que le corps du Christ était dans l'hostie. Et donc, au bout de trois fois, je lui dis « Bon, allez, ok, d'accord, parcours alpha, mais du style, tu me dis ça, mais j'en ferai rien. » Et je reste à la messe, c'était la messe anticipée du samedi soir, et à la fin de la messe, il me dit « Tiens, il y a les responsables du parcours alpha qui sont là, je te les présente ?» Je me dis « Mais merde, je viens de lui dire oui, donc j'ai pas d'autre choix que de dire « Oui, j'y vais ». Et effectivement, il me les présente, et je leur dis « Ben voilà, il m'a dit animateur parcours alpha, mais moi j'en suis un gars ». Et là, ils m'ont tout de suite rassuré en me disant « Non, non, mais hors de question, d'abord tu vas faire un parcours comme invité, tu vas découvrir ce que c'est que le parcours alpha ».
Cette pédagogie si particulière. Hein.
Voilà, le parcours alpha, c'est revisiter les fondamentaux de la foi chrétienne, et j'en avais vraiment besoin. Donc en fait, c'était une super bonne idée, et j'ai découvert le parcours alpha, et surtout au cours de ce parcours alpha, il y a une journée ou un week-end, là il se trouve qu'en l'occurrence c'était un week-end, qui était consacré à l'Esprit-Saint. Et là, j'ai découvert que dans les manifestations de l'Esprit-Saint, il y en avait deux dont j'avais la chance, la grâce d'être touché, qui sont les effusions de larmes et puis des frissons. Alors qui n'arrivent pas à n'importe quel moment, qui arrivent, voilà, quand j'ai commencé cette émission de l'enregistrer avec vous, il est venu là, il m'a dit « Ouais, je suis là avec toi ». Et voilà, et ça me donne cette force parce que avouer devant voilà, tous les auditeurs, toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma vie, ben, c'est pas quelque chose d'évident. Ouais, mais sauf que moi, j'ai la chance d'avoir cette force que me donne le Seigneur de dire « Oui, je suis avec toi et je t'ai demandé » parce que ça, c'était la deuxième phase où un jour, en me réveillant, l'Esprit-Saint me dit « Témoigner ». Et là, il y a eu un échange qui a duré 5-10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas, mais qui m'a expliqué, parce que je lui ai dit « Mais témoigner, ça veut dire quoi ?» Il m'a dit « Je t'ai donné un talent, c'est de prendre la parole. Tu le fais très bien dans ton boulot, maintenant tu vas le faire pour moi. » Et là, ça a été une joie immense. Parce que je me demandais comment je pouvais m'investir plus dans cette belle église qui en même temps est dégradée, à plein de souillures, etc. Mais qui reste une très belle église. Et là, ça a été génial. Derrière, il m'a demandé de faire un site internet. Ça a été cet échange. Et puis surtout d'écrire un bouquin. Et là, je lui ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas écrire. Autant je sais
tout
parler.
Ça, vous avez reçu ça, Pascal, dans la prière ou alors...
Non, je me réveille le matin.
D'accord.
Je me réveille le matin et j'entends cette voix. Je suis seul dans mon appart. J'entends témoigner. Et là, qu'est-ce qu'on fait? La première fois, il m'avait juste dit « Arrête tes conneries, tu vas voir, j'ai un dessein pour toi ». Il m'a laissé le temps de progresser, de me rapprocher de l'Église, de cette conversion que j'avais fait que de la tête, que tout le corps suive. Mmh. Et une fois que j'étais prêt, j'étais prêt pour répondre à cet appel.
Mmh. Et puis, c'est aussi, à travers ces parcours alpha, une communauté de femmes, d'hommes, de frères et sœurs en Jésus, finalement, qui... voilà, vous a redonné pleinement votre place aussi.
Tout à fait. Et j'ai découvert que bien que je sois divorcé, bien que j'étais un salopio, l'Église, parce qu'après ce premier parcours en tant qu'invité, eh bien, les responsables du parcours, tout en connaissant parfaitement ma situation, m'ont dit « Mais est-ce que, et comme ils le proposent en fait à tous les participants, est-ce que tu as envie de rejoindre l'équipe ?» Alors j'ai rejoint l'équipe, alors normalement je devais être co-animateur et puis ils m'ont tout de suite foutu comme animateur et puis ils m'ont dit « Tiens, tu parles bien, tu veux pas faire des topos ?» Et notamment il y a un topo qui est le premier topo qui est le sens de la vie. Et ce sens de la vie, je l'ai fait bien évidemment à la Trinité, mais je l'ai fait aussi dans plein d'autres paroisses puisque j'ai aidé après d'autres parcours alpha à se lancer. Et à chaque fois, quand je raconte que ma vie, elle allait de Caribe en Silla et que j'étais en train de creuser un gouffre et puis qu'un jour le Seigneur est apparu, eh bien, ça touche. Eh bien, c'est là où le Seigneur m'a appelé à témoigner. Et quand ça peut toucher l'un ou l'autre et qu'ils se disent, moi aussi, j'ai ma place dans l'Église, Ben, merci Seigneur.
Alors, je voudrais qu'on évoque aussi votre vie professionnelle, Pascal, qui a connu aussi un vrai virage. Hein. Après les ressources humaines, vous êtes orienté vraiment vers le soin aux personnes. La thérapie EFT, on en a dit un tout petit mot au départ. Comment est-ce que cette nouvelle direction s'est prise pour vous ?
Alors, il y a 3 février 2004, un énième accident de la vie, j'en ai eu un certain nombre au cours de ma vie, a fait que j'ai passé près de 4 ans allongé 80% du temps. J'ai été licencié pour inaptitude, j'étais DRH à l'époque, et derrière je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ce qui m'est arrivé à moi n'arrive à d'autres ? Et de là, j'ai créé une société de conseil pour prendre en compte le handicap au travail et faire de la prévention de la santé au travail. Il se trouve que ma santé s'est à nouveau dégradée il y a 2 ans, et on était une équipe de 7, et je me suis dit, mais je ne peux plus physiquement. Parce que la douleur, ça fait, voilà, j'ai fêté mes 20 ans il y a quelques semaines de pas avoir un jour sans avoir mal. Après, je relativise, hein, mon pronostic vital n'a pas été engagé et j'ai appris à gérer la douleur.
C'est une maladie chronique, évolutive ?
Non, c'est juste la carcasse qui est en très mauvais état et la colonne vertébrale qui, maintenant, de bas en haut, est en mauvais état. Donc, ça coince les nerfs, ça crée des paresthésies, ça me réveille la nuit, machin, etc. Bon, bref.
Mais ça vous permet peut-être d'entendre l'Esprit Saint, Pascal.
Ça permet d'entendre l'Esprit Saint, ça permet de prier dans la nuit en disant « Seigneur, aie pitié de moi et permets-moi de me rendormir maintenant que j'ai bien compris que là, j'avais un peu trop tiré sur la corde. Donc, j'ai vendu ma boîte, mais parce que j'ai toujours plein d'idées, parce que ça va un peu trop vite parfois pour moi, je m'étais formé à une forme de thérapie. Donc, comme vous l'avez dit à juste titre, EFT, Emotional Freedom Technique, qui permet au départ de gérer les syndromes post-traumatiques. Et à la suite, en fait, de cette formation, je le faisais juste par bouche à oreille. Il y avait des personnes qui spontanément venaient vers moi parce qu'elles en avaient entendu parler par X ou Y. Et j'ai la chance de pouvoir gérer mon agenda comme je le souhaite et donc de me mettre et de prendre le temps avec les clients. Et donc, je bloque 2 heures par client et je vois 1 ou 2 clients par jour. Et je suis vraiment dans la logique de qu'est-ce que je peux faire pour permettre à cette personne de mieux vivre. Et j'ai des témoignages qui sont bouleversants. Alors, j'ai pas la recette miracle, hein, ça marche pas à tous les coups, mais c'est une thérapie, en fait, ce qu'on appelle les 4e génération. Beaucoup de personnes connaissent le MDR. L'EFT, je trouve, est beaucoup plus puissant. Et donc, c'est une séance, très exceptionnellement 2 séances. Et la personne repart dans 90-95% des cas avec un grand sourire. Mmh. Et quand on voit
c'est
ça...
C'est votre activité principale aujourd'hui,
Pascal. Aujourd'hui, c'est mon activité... Alors non, mon activité principale, c'est de prendre soin de moi. Parce que j'ai en plus subi un quadruple pontage coronarien il y a maintenant 4 ans. Donc, je fais une demi-heure de vélo elliptique pour faire du cardio tous les jours et presque 1h30 d'exercice pour réussir à maintenir ma carcasse en état de fonctionner autant que faire se peut. Parce que ça ne se voit pas, mais je suis bien fracassé.
Non, je confirme, ça ne se voit pas du tout. Comme quoi, il faut toujours être très prudent par rapport à l'impression qu'on peut avoir sur une personne. Alors aujourd'hui, Pascal, donc vous prenez soin de vous, on l'a compris, vous prenez soin des autres à travers cette casquette de thérapeute que vous avez. On n'a pas parlé non plus de cette rencontre avec la femme qui partage aujourd'hui votre vie. Ça aussi, ça a dû être un moment important, j'imagine.
Ça a été un moment waouh. La première fois que j'ai rencontré ma seconde épouse, alors ma seconde épouse, soyons clairs, du point de vue de l'état civil français, oui, c'est ma seconde épouse, mais du point de vue la religion catholique que j'ai choisie, eh bien, je reste toujours uni à la mère de mes enfants, comme elle reste aussi unie. Alors, il y a des possibilités, il y a notamment cette facilitation de recourir à la nuité du sacrement du mariage. Moi, je l'ai tenté, alors je ne vais pas développer, mais j'ai compris après coup que si le Seigneur avait voulu, alors que je savais que je ne finirais pas ma vie avec la mère de mes enfants, je savais que je ne serais pas fidèle à la mère de mes enfants toute ma vie, et j'ai compris après coup, une fois qu'on m'a confirmé en appel que oui, ce sacrement était valide, que c'était important d'être dans cette situation irrégulière vis-à-vis de l'Église qui me permet aujourd'hui de témoigner que nous avons tous notre place dans l'Église, quelle que soit notre situation.
Oui, oui.
Alors que si j'avais pu avoir cette invalidité, eh ben j'aurais pu me marier, non pas me remarier, mais me marier, et puis finalement, tout aurait été beau. Eh ben non. Oui. Et c'est ce qui fait cette force, je pense, dans mon témoignage. Parce que, oui, je suis investi, parce que au début du carême, j'ai eu cette chance de pouvoir rejoindre l'équipe des funérailles suite à des appels répétés dans ma paroisse à la campagne. Et maintenant, je célèbre des funérailles. Alors que, il y a je ne sais combien de temps, faut pas oublier que quand on était divorcé jusqu'en 81, on était excommunié, qu'on soit ou pas dans une nouvelle union. Donc quand j'entends des personnes qui me disent « l'Église ne bouge pas », elle bouge, mais il ne faut pas oublier que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
Témoin, quand la foi se raconte.
Donc aujourd'hui, en plus de tout ce que vous faites, vous avez pris cette responsabilité d'accompagner.
Alors, je ne suis qu'un petit dans l'équipe, hein, je viens de les rejoindre, j'en ai pas mon tuteur, il en est à 150 funérailles. Quand il a célébré devant moi pour la première fois, il m'a dit « c'est ma 150e aujourd'hui ». Moi, ça se compte encore sur les doigts d'une main, mais c'est un service qui est plein de richesses et je pense que j'ai une certaine écoute dans les talents que le Seigneur m'a confiés et que cette écoute permet de transmettre cette foi. Moi, j'ai une chance extraordinaire.
Parce que c'est ce que j'allais dire, Pascal Denis Massé, aujourd'hui, que nous disent en tout cas nombre de prêtres, c'est que ce moment du mariage et ce moment des funérailles, c'est vraiment des moments clés pour témoigner de ce qu'est la foi. Et j'imagine que vous le faites très bien.
c'est cette chance que j'ai, c'est que pour moi, depuis que j'ai retrouvé la foi, la vie éternelle, elle est dès aujourd'hui sur terre et elle va se poursuivre au-delà de notre mort terrestre. C'est une évidence. Bien évidemment, cette évidence, j'en témoigne à la fois dans l'accueil des familles et puis au moment de l'homélie. Les funérailles, elles n'ont de sens qu'à partir du moment où on dit effectivement adieu à cette vie terrestre, mais derrière, il y a cette foi en la résurrection.
Et vous arrivez, parce que alors les auditeurs ne le voient pas, l'entendent je pense, vous avez beaucoup de sourires, Pascal Denis Massé. Comment on fait pour justement avoir la juste attitude face à des personnes éplorées dans une grande tristesse pour leur donner malgré tout cette hauteur de vue, cette espérance au moins?
Alors là, moi, je ne suis qu'un relais. C'est-à-dire que j'ai aussi cette chance d'être connecté avec là-haut. Et à travers des signes, l'Esprit Saint, il ne demande qu'une seule chose, c'est à venir nous inonder. Mais pour cela, il faut qu'on ouvre les portes. Et on a peur. Mais moi, j'ai eu peur. Et de temps en temps, j'ai peur parce qu'il m'envoie des trucs de dingue. Et je dis, mais attends, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux là? Et je vais vous donner un exemple tout bête. Dans une des funérailles que j'ai célébrées, il y a la personne qui est l'aide-soignante qui a accompagné les deux dernières années de cette personne. Et à un moment, elle me lâche que cette personne, à la fin de sa vie, elle a vu des anges. Mais elle me lâche comme ça, dans une phrase. Et moi, quand j'entends ça, et qu'en même temps, j'ai quelque chose qui me dit, là, il y a quelque chose d'important qui vient d'être dit. Et bien, dans mon homélie, j'ai parlé de ces anges et que cette femme qui a une vie atroce, notamment les 20 dernières années de sa vie, eh bien, son purgatoire, elle l'a vécu sur Terre et que là, aujourd'hui, les anges sont venus l'accueillir. Ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça, c'est l'Esprit Saint qui m'a dit là. Et à la fin de la messe, cette aide-soignante m'a dit, mais j'avais pas vu ça. Et son pauvre père qui était là m'a dit, oh, merci. Je vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai su qu'à ce moment-là, en fait, j'ai touché le cœur de ce père, je l'ai consolé, mais c'est pas moi qui l'ai consolé. C'est l'Esprit Saint qui m'a dit de mettre ça en avant pour consoler cet homme, ce papa.
Alors cette connexion, Pascal Denis Massé, comment elle se nourrit? Est-ce que vous parlez tout à l'heure de Saint-Vendry? Est-ce que c'est des mises à l'écart régulières à Saint-Vendry? Un accompagnement spirituel, une prière quotidienne? Comment ça se
manifeste? Oh, alors là, la prière, elle est multi-quotidienne. Les textes du jour, c'est pendant ma demi-heure de vélo elliptique.
D'accord.
Donc j'ai mon parole et prière, ça c'est nourriture, c'est le premier. J'en écoute 3 autres et j'en lis 3 autres. Ce qui fait que chaque jour, en fait, j'ai au total 7... alors c'est des cours, hein, c'est entre 10 minutes avec Jésus, la communauté de l'Emmanuel, évangile au quotidien, voilà. Et toutes ces nourritures, en fait, font que chaque jour, je redécouvre l'évangile et ça me nourrit. Et en plus de ça, j'ai ma prière au réveil pendant que je fais mes premiers exercices pour réussir à sortir du lit. J'ai ma prière le soir, je vais régulièrement à Saint-Vendry et là, je viens de, entre guillemets, négocier avec Saint-Vendry d'y aller plus fréquemment parce que ben, ces funérailles, ça peut être quelque chose de lourd. On est confronté à toute la misère humaine. Cette vie sur Terre, j'aime bien dire, elle est belle, mais elle est rude. Il y a les deux en même temps. De partager avec mon accompagnateur spirituel, c'est toujours le même. Hein, il a 10 ans de moins que moi. Donc
je pense le frère Xavier, c'est ça?
C'est le frère Xavier, ouais.
D'accord.
Ouais. Pour partager cela et continuer à pouvoir donner parce que en tant que thérapeute, je ne vais pas dire que je fais de la thérapie hein, à ces moments-là, mais il y a cette ouverture. Il est très important de se ressourcer et d'être plein pour pouvoir ensuite aider et accompagner les autres. Et si on n'a pas ces temps de ressourcement, eh ben on se vide et à un moment on est sec et là on ne peut plus rien faire. Et moi j'ai encore cette chance, hein, mais la vie est rude mais elle est belle, j'ai cette chance de... pouvoir prendre le temps pour accompagner, que ça soit dans des funérailles, que ça soit dans une séance de thérapie, pour que...
Vous avez c'est peut-être ça finalement le trésor, votre trésor, c'est aujourd'hui d'avoir ce temps après lequel on est tous en train de courir finalement.
Mais je cours moi aussi, j'ai plein de bricolage qui m'attend, j'ai du jardinage qui m'attend, mais je me dis...
Quand vous êtes avec, en tout cas en présence de personnes qui vous sont confiées, que ce soit en thérapie ou lors de ces moments très particuliers d'accompagnement, vous avez en tout cas cette attention au temps, à prendre ce temps.
Tout à fait, c'est essentiel. Et on est dans un monde qui n'est vraiment pas dans cette logique-là.
Non, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, parce qu'on est déjà au bout de l'émission, Pascal Denis Massé, je ne sais pas, qu'est-ce qui... Voilà, connectez-vous là en quelques secondes. Et livrez-nous peut-être ce qui vous habite.
Alors, la connexion, elle ne se fait pas à la demande. C'est lui qui vient, mais là, il vient de venir. Donc...
Je vous embête.
Merci de me l'avoir envoyé. Moi, le message le plus important, ce qu'il m'a demandé de dire, c'est nous avons tous notre place dans notre Église. Et on a peur. On se dit, oh, mais je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas dans le cadre idéal, donc je ne peux pas. Mais non, mais l'Église, elle est faite à l'image de nous tous. Et nous sommes tous cabossés. Moi, je suis le premier à être cabossé. Mais voilà, même en situation irrégulière, j'ai cette folie de l'amour de Dieu qui me permet de faire des choses au service de mon église et c'est la plus belle chose qui soit. Donc n'hésitez pas à aller voir vos curés, à aller voir vos différentes équipes et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est que nous venions les aider, les renforcer, les accompagner.
Grand, grand merci Pascal-Denis Massé d'être passé dans Témoins. Merci beaucoup pour ce beau partage.
Merci à vous tous.